Ensemble, un texte dans le chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 40, pour notre méditation de ce matin. Ésaïe 40. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie : préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit : crie ! Et il répond : que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda : voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, et il conduira des brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre avec un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice, et qui lui a enseigné la sagesse, et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, et elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et les animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, et il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé les cieux? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne les sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà ce beau chapitre, long chapitre, mais beau chapitre d'Ésaïe. Si on veut donner un plan au livre d'Ésaïe, on découpe généralement le livre en trois sections. La première section est une section importante qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 35. Et cette section recueille les prophéties du jugement de Juda, de Jérusalem, et puis des nations alentours à cause de leurs péchés. Et puis vient ensuite une petite section, les chapitres 36 à 39, qui est une section historique, avec le récit de la maladie de Sanchérib, le roi d'Assyrie, et puis la guérison, la maladie du roi Ézéchias, hein, roi de Juda, personne ne me corrige là, du roi Ézéchias, hein, et puis l'attaque du roi Sanchérib, roi d'Assyrie. Et puis la troisième section, c'est la section à nouveau prophétique qui annonce le salut, qui annonce la délivrance d'Israël et de Juda. C'est une section merveilleuse qui est présentée, cette délivrance nous est présentée par l'œuvre du serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ, et la gloire aussi nous est présentée, la gloire du royaume à venir. Mais le chapitre 40, c'est donc l'introduction de cette troisième section, et elle est magnifique, et elle commence avec ces mots « Consolez, consolez mon peuple ». Un peuple qui a subi les assauts répétés de ses ennemis a besoin d'être consolé. Un peuple pécheur, un peuple rebelle, un peuple qui va connaître bientôt la déportation à Babylone. Mais avant que cette déportation n'ait lieu, Dieu annonce à Juda et à tout le peuple qu'il ramènera son peuple, qu'il enverra la délivrance. Et il le fait avec ces mots, « Consolez, consolez mon peuple ». Et puis, quand il veut consoler son peuple, il va se présenter comme un Dieu majestueux. Et c'est cela tout le récit de ce chapitre. On voit un Dieu immense, un Dieu prestigieux, un Dieu majestueux, un Dieu infiniment grand et infiniment puissant. Et notre consolation à nous chrétiens aujourd'hui, elle provient de la révélation de la grandeur, de la majesté de notre Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on passe un peu de temps pour observer la majesté de notre Dieu. Au verset 9, il a dit, après avoir commencé à démontrer la grandeur de Dieu, il dit « Voici votre Dieu ». Voici votre Dieu. Et c'est cela qui les a encouragés et qui les a consolés dans leur souffrance. On insiste souvent sur le fait que Dieu est un Dieu personnel. Et c'est vrai, quelle belle vérité. On a un Dieu, on l'a chanté encore tout à l'heure, comme un ami qui nous comprend, un ami dans lequel on peut se confier. Mais à force d'être répété, cette vérité finit par donner l'impression que Dieu est une personne du même genre que nous, faible, imparfaite, inefficace, souvent dépassée par les événements qui nous arrivent. Mais le Dieu de la Bible, il n'a rien à voir avec une telle description. Il est tout différent. Notre Dieu, et il est infini, il est tout puissant. Notre vie à nous, elle est bornée. Notre vie à nous, elle est bornée elle est limitée de plusieurs points de vue. Dans l'espace, on peut être à un seul endroit à la fois. Ça nous aurait bien arrangé d'être à Toulouse et Montauban souvent en même temps. Mais c'est pas possible. On ne peut pas se partager. Mais Dieu, lui, il est omniprésent. Il peut être partout en même temps et entendre avec la même attention nos prières formulées ici et les prières formulées à l'autre bout de la planète. Et puis notre vie à nous, elle est limitée dans le temps. tellement limité que Dieu parle de nous comme d'une vapeur qui paraît juste pour un temps. Il compare à notre vie à la navette d'un tisserand. Vous avez déjà vu les navettes comme ça, c'est moins d'une seconde. Il compare nos vies à un souffle. Mais Dieu, lui, il est éternel. Avant qu'aucun homme ou qu'aucune chose n'ait été faite, il était déjà là. Et dans l'éternité qui vient, il sera toujours là. Notre vie est à nous est bornée aussi en connaissance. Les plus intelligents, tous ensemble réunis, ils n'ont une connaissance qu'infime. Mais Dieu, lui, il connaît toutes choses. Il a une science parfaite de toutes choses. Il lit précisément au fond de nos cœurs. Il connaît les choses les plus intimes de notre vie. Et puis il connaît toute la science. C'est lui la science. C'est lui qui a créé ces choses. Et puis notre vie à nous, elle est bornée en puissance. On est bien faible, bien fragile. Mais notre Dieu, lui, il est tout puissant. Dieu ne connaît pas de limites. Comme nous, Dieu est une personne, mais contrairement à nous, il est grand. Il est majestueux, il est éternel. Hein, dans notre passage, il est dit, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe. Voilà notre vie. On est tellement fragile, tellement passager. Mais Dieu, lui, il est infini. Aussi, on ne doit jamais perdre de vue la douceur, la tendresse de Dieu, la pitié de Dieu, sa patience à notre égard et puis son ardente compassion envers nous. Eh bien, néanmoins, il ne faut jamais perdre de vue non plus sa majesté, sa souveraineté et sa puissance. Dieu est personnel. J'aimerais qu'on regarde ça rapidement. On verra que Dieu est personnel, qu'il est majestueux. Et puis après, on essaiera de tirer les enseignements de la majesté de Dieu, si vous voulez bien. Dieu est personnel et quand Dieu, il cherche à en parler dans ce passage, il emploie un seul verset. Regardez verset 11 de notre passage. « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. » Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà comment Dieu veut se présenter à nous quand il se révèle comme un Dieu personnel. Sous l'aspect du bon berger, le bon berger qui prend soin de ses brebis, de son troupeau. En particulier des agneaux. Hein, il est dit ici qu'il les portera dans ses bras. Il portera les agneaux dans ses bras. Il connaît leurs difficultés. C'est ça qui est merveilleux. Dieu connaît nos difficultés. Et donc, il peut nous prendre dans ses bras et nous tenir dans ses bras. Il ne nous porte pas. Il ne nous porte pas par la peau du cou, vous savez. Comme une valise. C'est pas comme ça du tout que Dieu nous porte. Il nous porte dans ses bras. Il nous porte sur son sein. Parce qu'il nous aime. Il nous tient avec protection, avec affection. Voilà comment il nous considère. Il conduit aussi, il est dit, les brebis qui allaitent. Parce qu'elles ont besoin, encore plus que les autres, d'une nourriture abondante et d'une eau pure. C'est pour ça que le bon berger nous conduit dans de verts pâturages. C'est pour cela qu'il nous conduit près des eaux paisibles, pour rafraîchir notre âme. Dieu est ainsi. Il est personnel. Il nous connaît par notre nom. Il connaît nos besoins personnels. Il connaît notre faiblesse. Et puis il pourvoit à nos besoins. Mais Dieu est aussi majestueux. Et quand Il a voulu se faire connaître et consoler son peuple. C'est comme un Dieu majestueux qu'il se présente. Ce qui nous secourt lorsqu'on en est dans la détresse, c'est non seulement de savoir que Dieu est attentif à nos besoins personnels, mais qu'il est aussi immensément grand pour nous délivrer. C'est cela qui nous soutient. S'il était simplement un bon ami, mais qui peut rien pour nous, où serait notre consolation? Non seulement Dieu est notre ami, mais il est puissant pour nous secourir, pour nous délivrer. Si vous êtes comme le peuple d'Israël à cette époque, découragé, apeuré, secrètement désespéré, si tous les flots des événements de la terre semblent se déchaîner contre vous, si vous avez cessé de croire que la cause de Christ peut encore l'emporter, alors écoutez les paroles de Dieu par la bouche du prophète. Il dit au verset 12, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice et qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui ?» La réponse, bien sûr, personne. Considérez les œuvres de Dieu. Pourriez-vous en accomplir de semblable? Il a mesuré la quantité de l'eau nécessaire à la planète dans le creux de sa main. Vous voyez un peu la taille de la main? La taille de la main qui a fait notre monde. Et puis, il a mesuré l'étendue du ciel avec sa paume. Vous avez déjà fait ça? Moi, quand je veux mesurer, ça fait 20 cm, alors je fais comme ça. Essayez de mesurer l'univers, les millions d'années-lumière avec le paume de votre main. Pas simple, hein? Voyez la main de Dieu. Voyez sa grandeur. Voilà, tel est notre Dieu. Voici votre Dieu, dit les Écritures. Dieu seul pouvait créer l'univers. La quantité d'eau sur la terre, sa distance vis-à-vis du soleil, l'équilibre est parfait. Et la répartition est harmonieuse entre les montagnes et les vallées, entre les océans et puis la terre. Tout cela pour que la terre puisse se déplacer dans l'univers avec un équilibre parfait, avec une précision que même les horlogers suisses envient. Ils règlent leur monde sur l'univers, c'est pas le contraire. Tout ce que Dieu fait est parfait. Qui a été son conseiller? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui donne l'intelligence? Personne. Personne. Voici notre Dieu. Voici comment il est. Comment il est grand. Considérez à présent les nations. Ah, il faut se souvenir que les nations se sont jetées les unes après les autres sur Israël pour lui faire la guerre et pour la conduire en déportation. D'abord en Assyrie, mais il y a aussi eu l'Égypte qui a attaqué, il y a aussi eu Babylone. Elles ont terrorisé le peuple depuis longtemps parce qu'ils avaient des armées puissantes, des moyens beaucoup plus puissants, beaucoup plus importants que ceux d'Israël. Et regardez au verset 15, il est dit « Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. » Et verset 17, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Toutes les nations réunies sont à ses yeux comme une goutte d'un seau, comme la poussière sur une balance. C'est-à-dire, on ne la compte pas la dernière goutte, hein. On ne la calcule pas. Et la poussière sur le plateau de la balance, non, on s'en moque. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, que toute la puissance des nations ne sont à ses yeux que néant, rien. Au contraire, elles servent simplement à accomplir son plan parfait. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Quelle pensée encourageante pour un peuple qui devait partir 70 ans en déportation. Dieu dit, c'est juste un de mes instruments. Je vais vous emmener en déportation et puis quand vous aurez passé 70 ans là-bas, je vous ramènerai. Rien ne pourra empêcher les nations de vous ramener en Israël. Vous croyez que Dieu est contraint par les lois des hommes ? Est-ce que vous croyez que Dieu est limité par la puissance de ses ennemis ? Vous pensez que Dieu rencontre de l'opposition dans l'accomplissement de ses plans ? Est-ce que vous croyez que Dieu est tenu en échec par les nations ? Amen de la vie. Le plan de Dieu s'accomplit. Et puis considérez attentivement le monde, regardez ses dimensions, regardez sa richesse, sa complexité. Pensez aux milliards d'hommes qui peuplent la terre et à l'immensité du ciel qui le couvre. On n'est pas grand-chose, vous et moi, dans ce monde, n'est-ce pas ? Regardez le verset 22, il est dit « C'est lui qui est assis au-dessus du ciel, du cercle de la terre ». Le prophète Ésaïe, il a prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ, la Bible disait que la terre est ronde. Et Galilée, au XVIe ou XVIIe siècle, il a été excommunié et pris pour un fou quand il a dit qu'elle tournait. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Voyez ce que vous êtes au regard de Dieu. Il étend les cieux comme une étoffe légère et il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. On est comme des sauterelles. Mais aux yeux de Dieu, c'est le monde lui-même qui est petit. Quand on regarde l'univers, on se sent comme rien. Vous êtes déjà allé monter sur les Pyrénées, là. Vous arrivez en haut d'un pic, et puis là, vous voyez la chaîne des Pyrénées. Et puis vous êtes tout petit sur votre caillou en haut, puis vous dites waouh, je suis pas grand chose quand même ici. Et là, je vous parle que des Pyrénées, on parle pas de l'Oural ou des Rocheuses ou de l'Himalaya, non. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Quand on considère le monde, quand on considère la multitude, les milliards d'individus, on se dit mais on est rien du tout. Mais quand Dieu considère l'univers, c'est l'univers qui est rien du tout. C'est l'univers qui est petit. C'est la terre qui est toute petite. Le monde est son marchepied, il dit. Il s'y tient en sécurité. Il est infiniment plus grand que le monde et que tout ce qu'il renferme. Et toute l'activité fébrile des milliards d'êtres ne l'affecte pas. Il n'est jamais dépassé. Considérez encore les grands de ce monde. Pensez à ceux qui détiennent le pouvoir et qui, par leurs lois et leurs politiques, décident du sort de millions d'hommes. Pensez aux soi-disant maîtres du monde, aux dictateurs, aux bâtisseurs d'empires qui ont le pouvoir de plonger le monde dans la guerre. Pensez à Obama, à Sarkozy, je ne sais pas s'il en fait partie, à Hu Jintao, président chinois, à Bill Gates ou à DSK. Voilà les grands de ce monde. Mais au regard de Dieu, ils sont rien. Croyez-vous que ce soit vraiment ces grands hommes qui décident de la marche du monde ? Regardez le verset 23, il dit « C'est lui, Dieu !» qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Pensez à Sanchérib. Dans les chapitres précédents de notre passage, Sanchérib est venu pour attaquer Jérusalem. Il a encerclé Jérusalem. Sanchéri, pour comprendre que c'est l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. Il a déjà remporté de nombreuses victoires sur tous les pays alentours. Et là, il se jette sur Jérusalem. Et puis, il envoie ses soldats, il envoie ses porte-paroles. Tout Israël est sur la muraille en train de trembler. Et puis, il leur dit, écoutez, rendez-vous tout de suite là. Parce que là, sinon, on va vous massacrer. Vous ne pouvez rien contre nous. Il dit, vous pouvez appeler votre Dieu au secours si vous voulez, mais... Regardez, ils ont fait ça là-bas aussi. Et les dieux des nations d'alentour, ils ont tous été sollicités. Mais rien n'a pu arrêter notre empire. Alors Ézéchias, il entend ça, il est troublé. Il reçoit une lettre comme ça de menace. Et puis il prend la lettre, il rentre dans le temple. Et puis il dit, Seigneur, lis ça. Dis ça. Voilà toutes leurs menaces. Et Dieu dit, Sanchérib, tu es un insensé. Tu crois être tout fort? Demain, tu vas perdre 185 000 hommes de ton armée qui campent autour de Jérusalem. Demain, tu vas partir en courant et rentrer chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un autre royaume est venu attaquer la Syrie. Et donc, Sanchérib a dû repartir rapidement. Mais l'ange de l'Éternel a frappé. Et 185 000 soldats sont morts. Quand il est rentré, il est venu se prosterner devant son Dieu. Et pendant qu'il faisait ça, ce sont ses deux fils qui sont venus le tuer. Voyez-vous, l'homme le plus puissant de la terre. Le lendemain, il repartait en courant. Le lendemain, son armée était réduite à néant. Le lendemain, sa vie lui était reprise. Qui gouverne ce monde? Qui dirige ce monde? C'est Dieu. Pensez à Nebuchadnezzar, quelques années plus tard. Il est à nouveau, lui, le prince le plus puissant de la terre. Il a créé une de ses sept merveilles du monde. Avec les jardins suspendus de Babylone, il est là, en train de se glorifier lui-même. « Ah, n'est-ce pas moi qui ai construit cette ville magnifique à la louange de ma gloire ?» Et une voix du ciel se fait entendre. « Sache, ô roi, que c'est moi qui t'ai installé là, que c'est moi qui t'ai donné toute cette sagesse pour accomplir ces choses. Et pour que tu le saches, pour que tu l'apprennes, pour que tu t'en souviennes, je vais te retirer de cette place au sommet de la terre, et puis je vais te précipiter tout en bas. Et puis quand 7 années seront passées, je te reprendrai et je te rendrai ton royaume. Et quand Nebuchadnezzar a été remis à sa place 7 années plus tard, il a dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » Voici votre Dieu. Il dirige, il gouverne. Si vous voulez une illustration de la chose, DSK Dominique Strauss-Kahn montait dans un avion à New York pour aller à Paris et annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Et quand il était dans l'avion, quand il était assis, la police américaine est venue, puis lui a mis ses menottes, et puis là, l'homme que l'on prévoyait comme le futur président, il a couché en prison, il a été humilié, il a été abaissé, il a dû quitter le sommet de la scène politique mondiale. Qui dirige? Notre Dieu dirige. Notre Dieu gouverne. Considérez encore les étoiles. C'est ce qu'il dit un peu plus loin. Rappelez-vous une nuit où vous avez dormi à la belle étoile. Pour moi, ça commence à dater, mais peut-être pour vous. Chaque étoile, chaque lueur, là, cette minuscule lueur, est une étoile qui est plusieurs centaines de fois plus grande que la Terre. Elles sont plusieurs millions à des distances qui se comptent en millions d'années-lumière. Nos télescopes les plus puissants envoyés en orbite ne peuvent sonder l'immensité de l'univers. Chaque découverte scientifique donne le vertige. Notre esprit vacille quand on commence à sonder l'univers. Quand on commence à faire les calculs de distance, ça nous donne le vertige, ça nous donne la tournie. On n'arrive pas à concevoir de telles immensités. Mais pour Dieu, qu'est-ce que cela ? Regardez au verset 26, il dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. » Et par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Incroyable. Dieu est grand. Lui, il n'est pas dépassé. Il connaît chacune des étoiles par son nom. Et c'est lui qui trace leur course dans les cieux. Elles sont toutes sous le contrôle de sa main, soumises à sa volonté. Tel est le pouvoir. Telle est la majesté de notre Dieu. Alors, j'aimerais à présent tirer quelques enseignements sur la majesté. Et ces enseignements, on les trouve dans les questions que Dieu pose lui-même. Il dit, regardez au verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Quelle image avons-nous de Dieu ?» N'est-il pas trop souvent à notre ressemblance ? N'est-il pas très humain ? N'est-il pas très petit, parfois, à nos yeux ? Nous oublions qu'il ne souffre aucune comparaison. Sa sagesse, son pouvoir, sa grandeur sont infinis. Vers qui allons-nous nous tourner ? Quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans le besoin, vers qui allons-nous nous tourner ? Tournons-nous vers Dieu, vers sa majesté, vers sa grandeur, et reprenons courage. La deuxième question que Dieu pose, c'est au verset 27. « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » J'imagine que ces paroles étaient dans la bouche de ceux qui ont connu les années de déportation à Babylone. Ils ont dit, « Ah, mais Dieu nous a abandonnés, c'est sûr, Dieu nous a abandonnés. » Dieu n'abandonne jamais celui qu'il a choisi d'aimer. Dieu n'abandonne jamais. Au début où je suis arrivé à Toulouse, j'ai reçu un jour un coup de fil d'une dame. Elle m'a dit, je suis baptiste, mais ça fait 50 ans que je ne suis pas venu à l'église. Est-ce que je peux venir dimanche ? Je dis oui. S'est rencontré, je l'ai visité, et puis elle m'a raconté son histoire. C'était une Suisse, toute jeune, élevée dans la foi chrétienne. Elle s'est engagée à marcher avec le Seigneur, elle a été baptisée. Et puis, quelques années ont passé, et puis elle s'est amourachée d'un jeune homme, un Français. Un Français qui croyait en rien. Et puis, ils se sont mariés, elle est venue habiter en France, là, tout près là, de Toulouse. Quand elle a voulu aller à l'église, son mari lui a dit « Non, c'est fini ça, terminé. » Et pendant 50 ans, elle n'a jamais pu mettre à nouveau les pieds à l'église. Elle n'avait plus le droit de lire sa Bible à la maison. J'imagine que toute sa famille a dû prier, que toute sa famille a dû intercéder pour elle. Ses parents ont prié pour elle, mais ses parents sont morts. Et plus personne ne priait pour elle. Et puis, tenir un sujet de prière pendant 50 ans, sans rien voir, c'est pas simple. Je pense que beaucoup ont abandonné de prier pour elle. Mais l'instant où son mari est décédé, Dieu s'est rappelé à son cœur immédiatement. Elle est revenue au Seigneur. 50 ans après, elle a été fidèle dans l'église pendant les quelques années que le Seigneur lui a donné de vivre après cela. Et puis elle est partie dans la gloire, consolée, rendant témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur. Oui, Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais celui qu'il a choisi. Comment Dieu pourrait-il oublier ? Comment Dieu pourrait-il manquer à sa parole ? La Bible dit, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, « Comment vous oublierai-je ? Votre nom est gravé sur les paumes de mes mains. » Jésus-Christ a été crucifié. Il a été crucifié pour vous et moi, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. C'est par amour pour nous qu'il s'est livré. Comment est-ce qu'il pourrait nous oublier ? Comment est-ce qu'il pourrait nous délaisser ? Comment est-ce qu'il pourrait nous abandonner ? Il dit, une femme oublie-t-elle son enfant ? Et elle dit, il ajoute, quand elle l'oublierait, si c'était imaginable qu'une femme oublie son enfant, eh bien moi je ne vous oublierai pas. Dieu ne nous oublie pas. Vous ne pouvez pas dire, comment ? Où est Dieu m'a-t-il abandonné ? Vous ne pouvez pas le dire. Serait-il débordé ? Serait-il indifférent ? Serait-il impuissant ? Vous voyez le ridicule de cette pensée ? Dieu fait tourner la terre. Il fait tourner l'univers dans une complexité infinie. Il voit au fin fond de l'univers comme au fin fond de l'infiniment petit et au fin fond de votre cœur. Il a créé lui-même cette diversité, il a créé lui-même cette complexité. Il n'est pas dépassé par les choses qu'il a créées. Et alors, il vous oublierait ? Il serait indifférent à la cause de ses enfants qu'il a rachetés par son sang ? En donnant son Fils bien-aimé, co-auteur de toutes ses merveilles ? Vous n'échapperez jamais au regard de Dieu. Il connaît vos pensées. Il connaît vos paroles avant même qu'elles ne sortent de votre bouche. Il connaît tout de vous. Le psalmiste dit, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Vous ne pourriez même pas vous cacher de lui. Si vous le vouliez, vous ne pourriez même pas lui échapper. Comment est-ce qu'il pourrait vous oublier ? Si vous avez eu une telle pensée, si vous avez dit peut-être comme Israël, « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu », alors repentez-vous de cette pensée. Humiliez-vous devant Dieu. Demandez-lui pardon et reprenez courage en regardant à sa majesté et à sa grandeur. Et puis au verset 28, il dit, « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Dieu rappelle que ses vérités ne sont pas cachées. Et pourtant, nous avons tellement de mal à les conserver à notre esprit. Nous sombrons si facilement dans l'incrédulité à l'égard de notre Dieu. Dieu est Dieu. Il domine sur tout. Il voit tout, il peut tout. Combien nous amoindrissons la majesté de notre Seigneur par notre incrédulité. Je termine. Lorsque nous méditons sur la majesté de Dieu, nos forces sont comme renouvelées. Regardez ce qu'il dit là, verset 29. Je lis verset 29 à 30, 31, c'est la conclusion de ce chapitre. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Notre confiance est restaurée quand on considère la grandeur et la majesté de notre Dieu. Comment est votre Dieu? Comment est-il? S'il n'est pas comme il est présenté là, tout puissant, connaissant toutes choses de votre vie, alors c'est que vous ne l'avez pas vraiment connu. Dieu est majestueux. Il est immensément grand et puissant. Quand Dieu a voulu consoler son peuple, il lui a annoncé sa délivrance. C'est avec la révélation de sa majesté qu'il l'a fait. Pensez à cela. Si vous êtes découragé, si vous êtes fatigué, considérez la grandeur de votre Dieu et sa puissance. Repassez sous vos yeux l'immensité du ciel. Regardez les puissants de la terre qui, d'un seul souffle, sont terrassés. Regardez les puissantes nations qui sont renversées. Regardez la complexité du monde. Regardez la majesté de la création. Considérez toutes ces choses. Regardez et sondez ces choses et émerveillez-vous de la grandeur de la science, de la connaissance de notre Dieu. Il sait toutes choses. Il peut toutes choses. Et c'est à lui que nous voulons nous confier pour tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle, Dieu est grand, il est majestueux. Prions.